Bon, ça commence par le sixième mois. Donc si c'est le sixième mois, c'est que ça fait référence à quelque chose. C'est le sixième mois après quoi? Donc probablement que c'est une référence que fait Luc à l'annonciation précédente. Le sixième mois après la première annonciation. Ce qui correspondrait aussi dans un ordre de chronologie narrative, puisqu'il a été question du cinquième mois. Donc c'est resté secret jusqu'au cinquième mois. On arriverait au sixième mois. C'est dans l'ordre, on va dire, intratextuel, ça se tient. Donc c'est une référence à l'annonciation précédente. D'accord. Qui est faite par qui? C'est précisé juste après, par l'ange Gabriel. Donc cette fois-ci, alors Gabriel, ça signifie force de Dieu, mais ça, pour le coup, ça ne va pas nous intéresser plus que ça. Mais cette fois-ci, on ne va pas découvrir son identité de sa propre bouche, si tant est que les anges aient une bouche, mais. Dans la première annonciation, celle à Zacharie, c'est lui qui dit « Je suis Gabriel ». Ici, il ne se présente pas. C'est Luc qui le présente. J'opère de la même manière. Hein. Je prends plusieurs éléments les uns après les autres, et puis ensuite, on englobera tout ça. Si on continue un petit peu, dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Donc si vous regardez sur le plan que je vous ai donné, vous avez repéré Jérusalem où avait lieu la première annonciation, puisque c'était au temple. La deuxième, elle a lieu donc en Galilée, vous voyez la région, et puis à Nazareth. Donc c'est quasiment, je sais pas, au centre, mais un petit peu vers le sud-est quand même, quoi. Sud-ouest. Et Nazareth, ce qui est intéressant, c'est que c'est une ville qui n'apparaît pas du tout dans l'Ancien Testament. Jérusalem, bien sûr. Bethléem, qu'on verra tout à l'heure, bien sûr. Mais Nazareth, non. Ça n'apparaît pas. Verset 27. Il apparaît à qui? À une jeune fille vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le terme grec qui est utilisé, c'est parthénos. Donc c'est un terme qui va désigner une jeune fille qui n'est pas mariée. Et si elle n'est pas mariée, ça veut dire qu'elle est vierge. Et donc c'est pour ça qu'il y a la précision qui est apportée en français. Maintenant, elle est accordée en mariage. Donc là, c'est un peu on va dire du contexte dont je vais vous parler de l'époque. C'est-à-dire que pour les Israélites, à partir de 12 ans, une jeune femme peut être accordée en mariage. Et donc c'est notifié par un acte juridique. La fiancée, à partir du moment où elle est fiancée, reste toujours sous l'autorité de son père. Vous savez sûrement que dans la Judée du temps de Jésus, et avant et encore un peu après, même longtemps après, la femme n'existe qu'en référence à un homme. Donc soit à son père, soit à son mari, à la rigueur à son frère, mais il faut qu'il y ait une référence à chaque fois. Donc tant qu'elle est fiancée, même si elle est promise à un homme, sa référence, ce n'est pas son fiancé, ça reste son père. C'est lui qui conserve l'autorité. Et puis, cette durée, elle est souvent définie entre les deux parties, mais elle peut être assez longue, parce que le temps des fiançailles, c'est aussi le temps où le fiancé va devoir payer la dot. Et donc on se souvient, c'est qui? C'est Tobie? Qui va devoir s'occuper du troupeau de son beau-père pendant, c'est quoi, 7 ans? J'ai plus exactement en tête, mais je crois que c'est 7 ans. Donc voilà l'arrangement entre les deux parties. Et ce n'est qu'une fois le mariage célébré que la femme passe sous l'autorité de son mari, et donc elle va pouvoir venir habiter dans sa maison. Donc là, d'après ce que nous dit Saint Luc, Marie est la fiancée de Joseph. Ça veut dire que celui qui a toujours l'autorité sur Marie, c'est son père, et qu'ils n'habitent pas ensemble. Ensuite, si on continue, l'autre mot que je voudrais souligner avec vous, c'est au verset 31, c'est Jésus. Plutôt pas mal de soulever quand même celui-là. Jésus en hébreu, ça se dit Yeshua, et vous connaissez tous sa traduction, c'est Dieu sauve. Ensuite, si on continue un petit peu plus loin, verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Alors, « je ne connais pas d'homme », le verbe « connaître », parce que la Bible est très pudique. Lorsque la Bible va parler de la connaissance intime de l'homme et de la femme dans un acte conjugal, elle va utiliser le verbe « connaître ». Et ça apparaît dès le début, hein, dans le livre de la Genèse. On peut lire « L'homme connut Ève, sa femme, point, elle devint enceinte. » Donc à partir de ce moment-là, on sait que quand on voit le verbe « connaître » dans les Écritures, ça peut signifier cet acte conjugal. Donc ce qui fait que dans une lecture rapide, on pourrait se dire que la Vierge Marie, on ne comprend pas, elle est fiancée à Joseph, mais en fait elle ne connaît pas d'homme. Et... Non, ce qu'elle dit est très clair. Elle a un fiancé, mais elle s'en est tenue à la promesse des fiançailles. Et ensuite, une autre expression qui arrive juste après, verset 37, c'est « car rien n'est impossible à Dieu ». Pourquoi est-ce que je l'ai soulevée ? Parce que celle-là, on retrouve la même affirmation aussi dans le livre de la Genèse, en Genèse 18, 14. Et on la retrouve pour la conception miraculeuse d'Isaac. Et cette fois, elle est dite par le Seigneur lui-même. Sauf que vous vous rappelez de ce passage-là, c'est aux chaînes de Mambré. Il y a d'abord trois hommes qui arrivent vers Abraham, et puis c'est un bon hôte, du coup il les accueille. Et puis à la fin, on ne lit plus trois hommes, mais on lit le Seigneur. Donc bien sûr, on y voit une manifestation de la Trinité, hein. Mais surtout, c'est-à-dire que c'est le Seigneur lui-même qui dit à ce moment-là, parce que vous savez... Sarah, Harry, qui dit « mais en fait, c'est possible, quoi. Rien ne m'est impossible. » Et on retrouve cette même parole pour la naissance donc, de Jésus. « Rien n'est impossible à Dieu. » Parole qui est en plus hyper consolante pour nous. C'est bien de s'en souvenir. Alors, quelques propositions de lecture à nouveau. La première, c'est un parallèle entre les deux annonciations. On voit bien que la construction du récit... de Saint-Luc montre sa volonté d'établir un parallèle entre les deux annonciations. Il y a la mention de l'ange Gabriel et son invitation à la paix qui en sont des preuves. À chaque fois, il y a l'ange Gabriel et si Saint-Luc rajoute de lui-même c'est l'ange Gabriel, c'est bien parce qu'il veut montrer le parallèle qui existe entre les deux. Et la salutation, elle est présente à chaque fois quand l'ange va dire « sois sans crainte ». Donc il y a ce parallèle qui est nettement établi. Mais le but du parallélisme, finalement, c'est pas de mettre en avant les ressemblances. C'est même plutôt l'inverse. Le but du parallélisme, c'est de mettre en avant les différences. Là où Zacharie a eu un doute, on en a parlé, Marie, elle, va aussitôt s'abandonner à la volonté divine. Et si l'annonciation à Zacharie se fait dans le sein des saints, donc on a dit qu'il est la demeure de Dieu, eh bien, dans la deuxième annonciation, c'est Marie qui va devenir la demeure de Dieu, puisqu'elle va accueillir le Fils de Dieu. Il y a plus encore. On peut lire au verset 15 que Jean-Baptiste sera grand devant le Seigneur. Mais dans le passage qu'on a lu, Jésus aussi est qualifié de grand. Mais ce n'est pas précisé devant le Seigneur. Il est grand d'une manière absolue. Et il faut également noter que les mentions de la Judée et de la Galilée, donc on est revenu dessus à chaque fois, on a regardé où c'était sur la carte, eh bien, elles présentent le chemin que Jésus va parcourir. Il va aller de la Galilée vers la Judée. Il va aller jusqu'à Jérusalem. Et donc c'est tout le chemin terrestre que Jésus va parcourir pour accomplir un autre chemin. Et ce chemin, c'est celui qui relie par la croix qui est dressée à Jérusalem, la terre au ciel. Donc vous voyez comment est-ce que la construction en parallèle des deux récits de Saint-Luc, a pour but de mettre des choses en avant qui sont presque sous-entendues dans le texte, mais pourtant qui viennent nous en apprendre plus. Et enfin, la deuxième proposition de lecture sur ce passage concerne l'accomplissement des prophéties. Donc j'en ai pris deux chez Isaïe et une chez Daniel. En Isaïe 7,14, on peut lire du Messie qui doit naître d'une vierge. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Alors c'est amusant de voir que Jésus donc, reçoit à la fois ce nom de Jésus, Dieu sauve, mais il a aussi une mission, la mission de l'Emmanuel, c'est-à-dire sa mission de l'incarnation, d'être Dieu au milieu des hommes. Et chez les Hébreux, hein, Dieu, puisqu'on ne peut pas prononcer son nom, reçoit plusieurs noms. Adonai, Elohim, il y a plusieurs manières de l'appeler. Donc en soi, que Jésus, en tant que fils de Dieu, reçoive lui aussi plusieurs titres, ça n'a rien d'étonnant. Il est Jésus, il est Emmanuel, il est Christ. Tout ça, ça vient parler de qui il est, mais ça ne suffira jamais à dire véritablement qui il est. Deuxième prophétie. En Isaïe 11, versets 1 à 2, le Messie est issu de la lignée davidique. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et saint Luc a bien précisé que Marie est accordée en mariage à un homme de la maison de David. Et enfin, dernière prophétie que j'ai relevée, Daniel 7, 14, dans lequel on peut lire qu'il y a un comme fils d'homme qui doit descendre du ciel. Et donc ce comme fils d'homme, ce n'est autre qu'une dénomination du Messie. Donc quand Jésus se présente comme étant le fils de l'homme, c'est une annonce messianique. C'est pas le fils de l'homme, on pourrait penser que c'est un quidam, c'est n'importe qui. Mais en fait, non, c'est une annonce messianique. Et on la retrouve qu'une seule fois, cette expression « fils d'homme » dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Donc ce qui fait qu'on pourrait se demander est-ce que vraiment ça signifie une annonce messianique. Mais quand on regarde dans ce qu'on appelle la littérature péritestamentaire, c'est-à-dire ce qui a été écrit à la même période mais qui ne fait pas partie du canon des Écritures, on a retrouvé notamment dans les grottes de Qumran, si vous en avez entendu parler, à côté de la mer Morte, des textes probablement de la communauté des Esséniens, mais ça on en reparlera après, Esséniens, Pharisiens, Sadducéens. On a retrouvé des textes dans lesquels l'expression « fils d'homme » existe et elle est toujours attribuée à une annonce messianique. Donc en Daniel 7,14, il y a un « comme fils d'homme » qui doit venir et son règne n'aura pas de fin. C'est écrit « Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne sera un règne qui ne sera pas détruit. » Donc on voit comment est-ce que les précisions qu'apporte Luc, soit les paroles de l'ange, viennent accomplir les prophéties de l'Ancien Testament.